Vous écoutez Paroles et Pensées dirigées par Jean-René Ladmiral assisté de Nicole, émission préenregistrée le 3 juin 2022, diffusée sur Radio Courtoisie lundi 13 juin de 10h30 à 11h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonjour à tous, Jean-René Ladmiral au micro. Pour un nouvel épisode de mon émission Paroles et Pensées, et aujourd'hui, avec Nicole, nous avons le plaisir de recevoir l'abbé de Tannouarn pour faire une émission sur la Pentecôte, ce qui évidemment s'impose.
Bonjour.
Monsieur l'abbé, donc, dont on vient d'entendre la voix.
Et Nicole
va nous le présenter en quelques mots.
Eh bien, monsieur l'abbé de Tannouarn est bien connu de tous nos auditeurs, puisqu'il est patron d'émission à Radio Courtoisie. L'abbé de Tannouarn est prêtre catholique à l'Institut du Bon Pasteur, et le prêtre est philosophe.
Voilà, alors,
ou essaye de l'être, disons. Parce que vous savez que la philosophie, c'est une vaste tentative, et ce n'est que ça.
J'imagine aussi que vous diriez la même chose avec la même modestie, peut-être pour la prêtrise elle-même.
Oui, quoique la prêtrise, c'est un don. On n'en a pas.
Moi, c'est une grâce.
On n'a pas à demander à être prêtre, on reçoit le sacerdoce.
Ah, voilà, c'est une grâce alors que la philosophie est un travail.
C'est une grâce et je dirais c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de pardonner les péchés, d'une part. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez, dit Jésus au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Et c'est le pouvoir de célébrer la messe et d'être le témoin admiratif de la transsubstantiation.
Et donc, vous venez d'énoncer en quelques mots quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles Nicole et moi sommes très heureux de vous avoir comme invité dans cette émission consacrée à la Pentecôte. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est encore une clause de langage imbécile, en réalité, c'est grâce avec Monsieur l'abbé, nous avons fait une émission sur la Toussaint, une autre émission sur Pâques. La première s'appelait la Toussaint, la fête de tous les saints, et celle sur Pâques s'appelait de la semaine sainte à la semaine de Pâques. Et donc aujourd'hui, l'émission, nous la consacrons à la Pentecôte, et l'intitulé que nous avons envisagé, c'est « La Pentecôte parle à tous les hommes ». Mais je dirais que c'est la troisième émission, donc, de ce qui finalement constitue une série à laquelle j'ai pensé donner comme titre « Catholique et français toujours », qui est le refrain d'un cantique marial. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet grâce à l'abbé de Tannouarn. Et alors, je commencerai tout juste moi-même, simplement pour lancer les choses. Étymologiquement, la Pentecôte, ça veut dire 50e, donc c'est le 49e jour plus 1 après Pâques. Et cette fête est au départ une fête juive qui devient une fête chrétienne. Et peut-être, monsieur l'abbé, vous voudrez préciser un petit peu cette articulation de la Pentecôte de l'Ancienne Alliance à la Pentecôte de la Nouvelle Alliance.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes ces fêtes, la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, sont des fêtes juives à l'origine. La fête de Pâques signifie le passage de la mer Rouge, mais célèbre aussi le passage de l'ange exterminateur qui épargne les maisons où la croix de sang La croix de sang signifie que cette maison est hébraïque et non égyptienne. Donc les Hébreux sont épargnés par l'ange exterminateur par une croix de sang. C'est quand même une image étrange de la crucifixion et de cette croix de sang qu'est la croix du Christ.
L'anticipation.
Voilà. Et le Christ avait conscience de vouloir célébrer la Pâque avant que de mourir. Et la Pentecôte est une fête qui a lieu 50 jours après et qui célèbre le désert. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le désert ? Il y a le don des 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, sur le mont Sinaï, le don fait à Moïse. Donc c'est ce don qui est célébré. Et la Pentecôte, c'est la fête des tentes ou la fête des cabanes. Parce que dans le désert, eh bien, chacun construit sa tente ou sa cabane pour survivre. Dans la tradition juive. Et dans la tradition chrétienne, eh bien, la Pâque devient la fête de la résurrection du Christ. Et à travers la résurrection du Christ, c'est toute une nouvelle anthropologie qui naît. L'homme n'est pas un être pour la mort, mais un être pour la vie. Si tant est qu'il essaie de dire sa foi au Christ. Et quant à la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui se répand sur les apôtres à travers 12 langues de feu. Je dis 12, non pas parce que les apôtres sont 12, il y a un traître parmi eux qui n'est pas là, qui s'est suicidé, Judas, mais parce que la Vierge est avec eux et elle reçoit le Saint-Esprit comme eux.
Mais, allô ?
Oui ?
Ah oui, non, je croyais qu'on avait un problème de radio, de téléphone. Il me semblait qu'on avait remplacé Judas par Matthias. Et qu'on avait reconstitué...
Ça vient après. C'est-à-dire que la Pentecôte, le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'acte de naissance de l'Église. Et voilà. La première chose que fait l'Église, c'est de dire, nous étions 12, nous ne sommes plus que 11, il faut en choisir un 12e. Et comment choisir ? Eh bien, en tirant au sort. Et donc, c'était Barnabé ou Matthias. Et ça a été Matthias, donc par le sort, c'est-à-dire par la volonté de Dieu. Matthias est celui qui est désigné comme apôtre par le sort.
Et si je puis me permettre une remarque triviale, du coup, c'est un petit peu comme les huîtres, 13 à la douzaine, puisqu'il faut ajouter la Sainte Vierge.
Et voilà, et la Sainte Vierge qui est la reine des apôtres, la Sainte Vierge qui... garde son calme alors que tout semble tourne-bouler, et la Sainte Vierge qui est au milieu des apôtres de façon très maternelle déjà.
Oui, elle est la mère de l'Église. Oui.
En les empêchant de rentrer chez eux, tout simplement.
Et alors, dans ce cénacle augmenté de la Sainte Vierge, c'est là que va descendre l'Esprit Saint sous la forme de ce qu'on a appelé des langues de feu, des langues qui semblent être de feu, en jouant sur le double sens de langue, c'est-à-dire une petite flamèche, et puis aussi ce qu'on appelle une langue, c'est-à-dire un instrument de communication verbale. Enfin, pas un instrument seulement, disons un espace de communication verbale. Et alors là, on a toute la problématique, évidemment, qui m'intéresse vivement, et auquel, monsieur l'abbé, vous êtes sensible aussi, mon côté traductologue, m'intéressant à la traduction, au pluralisme des langues. Et là, la Pentecôte, c'est en quelque sorte le pendant de Babel, comme si la Pentecôte venait racheter Babel. Alors peut-être, allez-vous en dire...
Alors Babel, voilà, il faut peut-être parler un peu de Babel. Babel, c'est un très beau symbole dans la Genèse, au début de la Genèse, chapitre 6 de mémoire. Chapitre 10, pardon, de mémoire, les hommes s'entendent pour construire une immense ziggourate, une immense tour qui touche le ciel. Et c'est au fond comme la première figure du mondialisme. Pas de la mondialisation. La mondialisation est un processus qui vient de qui vient de du progrès technique et du progrès informatique, mais du mondialisme, c'est-à-dire de cette volonté qu'a l'homme de créer une unité au-delà de toutes les origines diverses et un règne humain. Un règne humain qui ne peut que s'opposer au règne divin.
Et qui, d'autre part, détruit la diversité humaine.
Et le qui paradoxe détruit la diversité époque, humaine, absolument.
Et le paradoxe de notre époque, c'est que les classes dirigeantes, à la fois sont mondialistes et prônent la mondialisation et le mondialisme, et en même temps nous chantent les merveilles de la diversité. Alors que ce sont deux perspectives totalement opposées, le mondialisme.
Oui, mais alors notez bien que leur diversité, elle est très semblable, elle est dans la semblance. On porte les mêmes vêtements sur tout l'univers, on parle la même langue qui est une espèce de globish anglais. On exorcise la diversité vraie, finalement, au nom d'une diversité artificielle, et qui repose, elle, sur une unité profonde. Le chef d'entreprise a la même culture que le dernier de ses ouvriers. Il écoute la même musique, il écoute les mêmes informations bien pensantes qui vont toutes dans le même sens, etc.
Et comme vous le disiez, Monsieur l'Abbé, finalement, c'est une diversité en trompe-l'œil, un semblant, puisque, par exemple, par rapport aux immigrés, le discours immigrationniste est très positif, mais ils ne reconnaissent pas leur diversité. Ils insistent sur le fait qu'ils sont comme nous. En somme, autrement dit, en accueillant la diversité, ils la nient, puisque l'autre est accueilli parce qu'il n'est pas autre, il est comme nous, comme nous. C'est un argument mis en avant.
Voilà, ils ne peuvent que la nier. Et c'est amusant de voir que l'idéologie diversitaire est une idéologie profondément unilatérale, finalement, paradoxalement.
C'est-à-dire que l'idéologie est rarement un système cohérent comme ceux que peuvent produire un philosophe, par exemple, au terme d'un travail de réflexion suivi. C'est plutôt quelques thèmes attachés de façon lâche au service d'autre chose, c'est-à-dire d'un projet politique de domination.
Écoutez Radio Courtoisie.
Allez-y, oui, il y a que sur Radio Courtoisie qu'on puisse entendre ce parallèle entre l'idéologie diversitaire et la tour de Babel et la Pentecôte, finalement.
Ah oui.
Alors, on va peut-être laisser Nicole représenter encore une fois l'émission et l'abbé, et puis ensuite nous allons on ne l'a jamais quitté, à la Pentecôte elle-même.
Alors, dans la série catholique et français toujours, Jean-René Ladmiral, assisté de Nicole, reçoivent Monsieur l'abbé de Tannouarn, qui est prêtre catholique à l'Institut du Bon Pasteur et philosophe. Il est aussi patron d'émission. Et moi, je voulais aussi rappeler son livre « Parier avec Pascal » aux éditions du Cerf. Je dis CERF pour que l'on comprenne.
Vous faites bien de rappeler ce livre parce que c'est le livre qui m'a converti. Je dirais qu'on écrit pour deux raisons. On écrit pour expliquer aux autres et on écrit pour se mettre soi-même au clair. Et bien, ce livre, Parier avec Pascal, est un livre qui m'a, à travers lequel j'ai essayé de me mettre au clair sur la foi, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Et ça, c'est ce qui m'a fait passer, je dirais, de la scolastique à la philosophie moderne dans toutes ces questions.
Et je dirais que c'est... Allez-y.
Je voulais dire que, aussi, que le titre de cette émission que nous entendons en ce moment, la Pentecôte parle à tous les hommes. Voilà.
La Pentecôte parle à tous les hommes, c'est très important, parce que l'Esprit dit à notre esprit « Abba », c'est-à-dire « Père », comme dit saint Paul. Au fond de nous-mêmes, nous avons ce besoin d'une paternité absolue qui est portée par l'Esprit Saint, en fait. Et cela, quel que soit le degré de précision ou d'imprécision de notre foi. Au fond, je pense qu'on a tous la foi, que la foi est quelque chose de nécessaire. C'est la foi ou le chaos. Et comme la nature a horreur du chaos, l'homme spontanément, obscurément, mais réellement, a toujours déjà choisi la foi.
Oui, alors, Konopnicki avait publié un livre sous le titre « L'amour inconscient ». Alors là, ce serait...
Ça me va très bien.
La foi inconsciente. Et en somme, il ne s'agit pas tellement de convertir les incroyants que de les aider à se trouver eux-mêmes.
À découvrir cette foi en travail au fond de leur cœur.
Voilà. Et alors, on est tout de suite vraiment dans la Pentecôte, puisque les apôtres, après la mort du Christ, sont un peu désemparés. Comme vous dites, la Sainte Vierge est au milieu d'eux pour les rassembler, les rassurer. Et la descente de l'Esprit Saint, ça n'est pas une façon de les convertir, ils le sont déjà, mais d'une certaine façon quand même, c'est faire lever en eux ce qu'ils étaient déjà, c'est-à-dire les apôtres du Christ qui vont faire connaître la bonne nouvelle à toutes les nations. Et alors justement, c'est faire connaître la...
Mais ils étaient loin de cette bonne nouvelle finalement, quand on y réfléchit. Je rappelle qu'au moment de l'ascension, c'est-à-dire 10 jours avant la Pentecôte, en réalité comme dans notre calendrier aujourd'hui, au moment de l'ascension, il y a un groupe d'apôtres qui demande à Jésus, « Seigneur, c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël. » Autrement dit, alors ces apôtres sont courageusement anonymes dans le texte, on ne sait pas de qui il s'agit, mais c'est quand même étrange de voir à quel point la version politique de la bonne nouvelle avait le pas sur tout, finalement, pour les apôtres.
Enfin, elle avait la vie dure, quoi.
Elle avait la vie dure, exactement.
D'ailleurs, c'est au-delà de cette expérience théologique, je dirais que c'est une expérience anthropologique générale. Le nouveau passe par le canal de l'ancien. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend. C'est-à-dire qu'on appréhende le nouveau à travers l'ancien qui fait l'objet d'une sorte de subversion intellectuelle. Alors ça peut être pour le pire, comme par exemple la Révolution française qui ne cesse d'utiliser la tradition catholique. Tous les révolutionnaires sont des anciens clercs et il y a une sorte de sacralisation de certains mots comme la liberté, la raison, dont il ne reste plus rien que justement une sorte d'incantation. Et ça peut être aussi en un sens positif, et mon pessimisme fait que je suis embarrassé pour trouver un exemple, mais par exemple le fait que le christianisme émerge, la nouvelle alliance émerge de l'ancienne alliance, du judaïsme, et le Christ dit bien qu'il n'est pas venu pour abolir l'ancienne alliance, mais pour la réaliser. Et autrement dit, c'est en passant par l'ancienne alliance que la nouvelle alliance peut advenir.
Voilà. Et c'est à travers l'idée ancienne de la Pentecôte, cette fête des tentes, cette fête du désert, que l'homme réalise qu'il est lui-même chacun, il y a en chacun d'entre nous un homme du désert. Et il y a en chacun d'entre nous ce retour au désert qui est une reprise de la vérité de notre condition. nous sommes dans la distraction, nous sommes, dit Pascal, dans le jeu finalement. Il faut nous ressaisir nous-mêmes face à la mort et à la vie. Et ça, c'est au fond notre Pentecôte personnelle, ce choix intime de la vie que nous faisons chacun d'entre nous.
Alors, un des points sur lequel je ne peux pas ne pas revenir, en tant que linguiste et traductologue, évidemment, c'est l'épisode des langues de feu. Donc, les apôtres sont rassemblés avec la Sainte Vierge, et puis il y a un grand mouvement de feu et de vent, et à ce moment-là, sur chacun, il apparaît une langue de feu, une langue qui ressemble à du feu, dit-on, et à ce moment-là, les apôtres parlent leur propre langue, mais en même temps, tout le peuple rassemblé à Jérusalem venant de différentes populations, peuplades de langues différentes, chacun entend ce que disent les apôtres dans sa propre langue. Et là, c'est la Pentecôte comme miracle du plurilinguisme.
C'est le miracle de l'inculturation, finalement, qui s'oppose à quelque chose qui n'est absolument pas miraculeux, qui est l'universalité du globish. Soit finalement tous les hommes parlent la même langue, mais une langue appauvrie et une langue utilitaire, soit ils comprennent dans leur propre langue un événement sacré qui bouleverse leur destinée et qui est l'avènement de l'esprit.
Et donc, alors, on peut faire une lecture critique et superficielle de cette universalité à travers l'arasement culturel et linguistique du globish, mais on peut aussi hasarder une hypothèse qui est la mienne, c'est que si la traduction est possible, même très difficile, mais possible, c'est que au fondement de la diversité, parfois énorme des langues, par exemple, moi j'ai un tout petit peu travaillé sur le chinois, et donc on perçoit à quel point ça fonctionne différemment de nous, et pourtant il y a une sorte un socle d'anthropologie linguistique qui fait que nous pouvons nous entendre. Moi, j'étais très frappé par mes étudiants chinois qui maîtrisaient un français tout à fait éblouissant et qui maintenaient à la fois leur identité linguistique et culturelle chinoise, mais qui avaient pu rentrer dans la logique française et notamment dans la logique de mes propres travaux. C'est bien que, en quelque sorte, c'est une Pentecôte à répétition. Tout à l'heure, je faisais le rapport entre Babel et la Pentecôte. L'idée, souvent on entend Babel comme la différence des langues, alors que justement la tour de Babel s'attache à les dépasser. Mais souvent on entend Babel au sens d'une diversité inconciliable des langues, même si le mythe dit...
La multiplication des langues, c'est le châtiment divin qui saisit l'homme en quête de puissance et qui annule finalement cette espérance d'un règne humain. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une vraie diversité des langues. Et par exemple, vous parliez du chinois. Je crois savoir qu'en chinois, il n'y a pas de verbe être. Métaphysique est la métaphysique chinoise sans verbe être?
Et par ailleurs, il n'y a pas non plus le concept de Dieu. J'ai un de mes étudiants très brillant, qui est maintenant professeur à Hangzhou, qui était un de mes fidèles, et il a fait un travail dont je vais publier une version dans la revue canadienne Meta, sur la traduction, entre parenthèses impossible, point d'interrogation, du nom de Dieu en chinois. Parce que le
politique. Vous savez que Malebranche a fait un texte là-dessus.
Pardon ?
Et Malebranche a fait un texte là-dessus au XVIIe siècle.
Ah bah écoutez,
en se demandant si on pouvait, au lieu de Dieu, employer l'expression chinoise « Seigneur du ciel ».
Eh bien voilà, c'est ce que propose mon étudiant, Maître du monde, Seigneur du ciel, tout un ensemble de paraphrases. Et d'ailleurs, j'avais fait une soutenance, j'avais demandé au professeur de chinois et à la responsable de l'école doctorale, donc j'avais, comme j'avais la conviction que mon étudiant était de très grande valeur, j'avais constitué un jury presque jury difficile. Et effectivement, alors je suis très heureux, je vous demanderai les références, cher monsieur l'abbé, je vais les indiquer à mon chinois, parce que, évidemment, ça va dans le sens...
C'est le dialogue avec un philosophe chinois de Malebranche.
D'accord. Bon ben.
Et qui est un texte très, très étonnant, qui justement part du fait qu'il n'y a pas de mot en chinois pour dire Dieu.
Voilà, et donc voilà, donc alors c'est parfait. Grâce à vous, mon chinois va améliorer son travail, à moins que, entre temps, parce qu'il est très sérieux, eu accès à ce texte-là. Moi, je vais me précipiter sur mon Malebranche pour le lire en vous remerciant de cette, je dirais pas une information, de cette leçon. Voilà. Alors,
de ce renseignement.
Oui, bah oui, non, mais c'est très bien.
Je ne me hasarderai pas à vous faire la leçon, cher monsieur l'amiral.
Mais monsieur l'abbé, si vous êtes assez intelligent pour savoir que nous sommes loin de savoir tout et que nous sommes très contents de prendre des leçons des gens qu'on estime et qu'on aime. Et d'ailleurs, même des autres, parfois, même si ça peut nous agacer. Alors, sur cette histoire du miracle du plurilinguisme, je rappelle donc ce que raconte la tradition, c'est-à-dire que l'Esprit Saint descend sur les apôtres et la Sainte Vierge, manifeste après avoir un tumulte de feu et de vent, des langues de feu.
Le vent étant la signification de l'Esprit, hein.
Ah oui,
l'Esprit Saint, c'est le souffle.
Mais dans un premier temps, c'est surtout de l'intempérie. C'est dans un deuxième temps que l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Et alors, encore une fois, chacun parle sa langue, mais tout le monde comprend. Autrement dit, il y a un miracle du plurilinguisme qui, à la fois, comme vous dites... connaît une caricature destructive dans le globish, mais qui, comme je le propose, renverrait à une sorte de socle plus ou moins mythique d'une anthropologie linguistique générale qui fait que, si diverses que soient les langues et les cultures, il y a un socle commun qui fait qu'on peut s'entendre, même si ça n'est pas toujours facile.
Et ce socle, on l'appelle l'esprit, finalement, l'esprit humain.
Voilà, et c'est l'Esprit humain, et l'Esprit Saint est là pour le manifester et le magnifier. Et alors, il y a
parce que Dieu est esprit, fondamentalement.
Bon, ben oui, alors, monsieur l'abbé, expliquez-nous ça, c'est parce que nous, je pense
non,
que...
Non, mais je ne sais pas si c'est facile d'expliquer ça, mais la première saisie de Dieu que nous ayons, c'est Dieu comme esprit. Voilà. Comme dit Anaxagore, l'esprit a tout ordonné. Unus panta die cosmos, l'esprit a tout mis en cosmos. Et c'est devant la beauté du cosmos que nous sommes appelés à croire en l'esprit. Alors cela dit, cet esprit grec, cet esprit ordonnateur, n'est pas l'esprit saint. Et c'est pas le même mot d'ailleurs en grec. Unus, d'une part c'est le nous et d'autre part c'est le pneuma. L'esprit à Athènes, c'est le nous, c'est l'esprit ordonnateur, et l'esprit à Jérusalem, c'est le souffle.
Et il y a aussi le logos, hein, au début, in principio erat verbum, qui est la traduction du grec logos, hein. Donc en fait, il y a trois termes. Hein. Il y a pneuma, nous et logos. Hein,
nous étant un terme philosophique réservé à l'hellénisme, en fait.
Et alors,
mais le pneuma, c'est l'esprit créateur de Dieu. Hein. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 3, je crois, on lit l'esprit planait sur les eaux. comme si, au fond, la création était en attente d'un parachèvement spirituel. Ça aussi, c'est une leçon de Malebranche. Vous savez, quand il parle du problème du mal et du drame du mal dans la création, il dit « mais la création n'est pas finie ». La création, elle doit s'accomplir dans l'éternité, finalement. Et là, elle sera sans aucun mal, puisque elle n'aura pas cette matérialité qui est, pensent les philosophes grecs, l'origine de tout mal.
Et en somme, c'est la création glorieuse comme le corps glorieux, c'est-à-dire la résurrection du corps sans ses faiblesses.
C'est une résurrection de tous les êtres.
Voilà, oui.
L'esprit est en attente de la recréation universelle.
Alors, je voudrais vous soumettre, monsieur l'abbé, un problème de vocabulaire. Ce miracle du plurilinguisme est désigné par certains auteurs comme tout le terme savant de glossolalie. Glossolalie. Et alors, ce terme de glossolalie, il est employé pour les psychiatres pour désigner une sorte de discours tenu par certains sujets en difficulté psychologique, qui n'est pas la langue normale, qui est une sorte de bricolage de la langue, et que ne comprennent que ceux qui sont très proches. Et il y a dans un roman magnifique de ce qu'a écrit Claire de Femme, qui a eu deux fois le prix Goncourt, ce juif russe qui disait...
Émile Ajar.
Voilà, et son vrai nom étant...
Romain Gary.
Voilà, Romain Gary, le grand Romain Gary. Et alors, dans Claire de Femme, il met en scène un personnage qui, justement, tient un discours... Alors, qui a tout l'air d'être du français, les mots sont français, la syntaxe est française, mais on ne comprend pas. Et de même, chez Sartre, dans je ne sais plus lequel, Le Mur peut-être, il y a un malade mental, enfin un homme qui est perturbé, qui tient un discours que seule sa femme comprend. Et alors c'est le sens, je dirais, psychopathologique de la glossolalie, alors qu'il semble que le terme a été repris en un sens positif par la tradition chrétienne, au moins catholique, et désignant par là justement ce miracle du plurilinguisme. Mais ça n'est pas la première fois qu'un terme a plusieurs acceptions.
Et c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, après la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle dans l'Église primitive le don des langues, voilà. Où effectivement certains chrétiens en prière parviennent à parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Saint Paul était très attentif à ce genre de phénomène et très inquiet d'ailleurs. Il disait que personne ne parle en langue s'il ne se trouve quelqu'un pour traduire. On sent qu'il avait l'impression que peut-être des interférences diaboliques pouvaient se glisser dans ce parler en langue. Mais en tout cas, ça a toujours été dans l'Église, et c'est la sagesse de l'Église dans sa riche diversité, comme dit aussi saint Paul. L'Église nous fait parler en langue, dans la diversité des langues, dans l'inculturation, comme on dit aujourd'hui.
Désolé de vous interrompre, juste pour rappeler à nos auditeurs qui sont sur Radio Courtoisie, qu'ils entendent l'émission de Jean-René l'Admiral, assisté de Nicole, et l'émission est Parole et Pensée, dont le titre est « La Pentecôte parle à tous les hommes », et nous recevons M. l'abbé de Tanouarn, qui est prêtre catholique à l'Institut du Bon Pasteur, philosophe et patron d'émission à Radio Courtoisie.
Voilà, alors, comment dirais-je, sans doute, ce miracle glossolalique de la Pentecôte mérite que nous y prêtions attention, Vous en avez esquissé une sorte de caricature par l'arasement glacique des globiche des diversités. J'en ai hasardé une justification par une sorte de socle profond d'anthropologie commune, et en même temps on peut essayer de s'interroger sur le vécu, comment ça a pu se passer, pourquoi est-ce que ça apparaît dans la tradition, et comment ça a pu être vécu plus concrètement, plus simplement. Une fois qu'on a dit que chacun parle sa langue et que tout le monde comprend, on a énoncé le problème. On a énoncé le problème, on a apporté une autre réponse à la diversité babélienne des langues.
Oui, et on a entrevu la possibilité d'une union de tous les hommes, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais cette union de tous les hommes n'est possible qu'en Dieu, que dans un au-delà de l'homme. L'homme, s'il se prend lui-même comme but, est forcément dans l'échec. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, dit le prophète Jérémie au chapitre 17. Je crois que c'est le sens de l'événement de Babel. L'homme se confie dans l'homme et son espérance est trompée. Il n'y a d'espérance vraie, et l'espérance d'unité de l'humanité que dans l'Esprit Saint, finalement. C'est-à-dire que dans quelque chose qui est au-delà de l'homme et qui seul est capable d'unir les hommes dans leur diversité.
En somme, l'hypothèse, enfin l'idée que j'ai mis en avant d'un socle anthropologique, le socle d'une anthropologie linguistique et culturelle profonde qui permettrait la communication, la communion entre les hommes. En fait, cette hypothèse, cette façon de penser la pluralité et l'unité, renvoie au fait que l'homme est créature et que s'il y a ça, c'est quelque chose comme une sorte de Pentecôte profonde, c'est-à-dire l'homme est créature, donc c'est Dieu qui lui fait ce don. C'est à partir de ce statut de créature de Dieu qu'il a cette faculté, qu'il lui est donnée.
L'homme prend conscience de lui-même comme créature, oui. Et c'est de cette façon qu'il peut aspirer à l'unité de toute créature, dans la mesure où elle se sent elle-même créature.
Voilà, et alors peut-être, là on a beaucoup insisté sur l'unité, et moi je suis très sensible à la différence. Moi je sais que je suis entre les... Quand j'étais jeune, j'étais attaché à l'unité, mais maintenant, avec la maturité, une maturité très avancée, je suis très sensible à la diversité des gens, des âges, des sexes, des langues, des cultures. Et je maîtrise je soupçonne à quel point tout ça nous échappe pour notre bien. C'est-à-dire que un moment où il y a ce danger d'un arasement mondialiste, cette diversité avec ses charmes, ses risques aussi, est une chose essentielle et qui est maintenant en danger. Et alors, d'une certaine façon, on peut lire ce miracle du plurilinguisme de la Pentecôte comme une façon de dépasser le plurilinguisme en le maintenant. C'est-à-dire que chacun parle sa langue et chacun le comprend dans sa langue. Donc chacun, qu'il s'agisse des apôtres ou de leurs auditeurs, continue à être enraciné dans une unité linguistique, dans une identité linguistique qui n'est pas dépassée, ou plutôt qui est dépassée miraculeusement dans ce discours, mais qui foncièrement reste leur identité fondatrice. Et donc ce serait.
Et là, vous décrivez, à mon avis, la dualité qu'il y a entre la nature et le surnaturel. On a besoin du surnaturel pour penser le religieux. Je sais que après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les théologiens ont imaginé qu'on pourrait se passer du surnaturel, qu'on pourrait envisager une théologie sans surnaturel, mais au fond, la fête de la Pentecôte nous rappelle que s'il n'y a pas cette ouverture au surnaturel, il n'y a pour chacun que sa sauce et sa cuisine à lui, finalement. Et le surnaturel ne vient pas supprimer cette sauce ou cette cuisine que chacun fait en son intime avec toute la culture dont il est porteur, ou pas. Il y a une révélation, il y a une vérité qui est donnée et qui est au-delà de tout ce que l'esprit humain peut imaginer et qui est, au fond, pour chacun d'entre nous, la certitude du salut.
Mais autrement dit, j'étais tenté de faire, nous avons été parfois tentés de faire une lecture, pour ainsi dire, sécularisée de la Pentecôte, mais le point important, c'est la descente.
Oui, c'est pour ça que je vous parle du surnaturel.
L'important dans la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, et ces langues de feu, en jouant sur les mots en grec comme en français sur langue, mais en réalité c'est important, c'est la langue de feu manifeste la descente du Saint-Esprit sur chacun d'eux. Et donc la référence explicite à la transcendance dont s'autorise tout ce que nous avons dit sur...
Et s'autorise d'une nouvelle société qui est l'Église, qui est la seule société de personnes, finalement. Parce que c'est la seule dans laquelle, pour y entrer, il faut le vouloir. C'est-à-dire que l'Église est à l'origine de l'idéal laïque du contrat social. Mais dans l'Église, par le baptême et par la confirmation de ce baptême, qui est le deuxième sacrement, il y a un véritable contrat social. L'Église est une société de personnes. C'est-à-dire que chaque chrétien est volontairement chrétien. Nous ne sommes pas volontairement français ou arabe ou chinois, mais nous sommes volontairement chrétiens, et cette volontariété crée une nouvelle société qui est une société non pas d'individus en cours de massification, mais une société de personnes libres et qui construisent cette société par leur liberté.
Et alors, de ce point de vue-là, la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est du point de vue dans l'histoire sainte, c'est l'Église existe à partir de l'Église comme société, l'Église comme communauté non fermée est instituée par la Pentecôte.
Oui. La Pentecôte est la fête de l'Église, et en fait c'est la date de naissance de l'Église.
Et alors, à cette date de naissance, il y a les 12 apôtres et la Sainte Vierge et le projet d'évangélisation à toutes les nations. Donc c'est une église naissante, mais encore virtuelle, enfin encore en projet en somme. C'est une église...
Encore en projet, mais qui va se réaliser dans les 3000 personnes qui écoutent l'apôtre Pierre la parole et qui se convertissent en masse. À cause de ce miracle des langues et qui vont constituer le premier noyau de chrétiens, finalement. C'est un grand mystère, cet avènement de l'Église dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle avait comme argument, l'Église, pour fleurir dans l'histoire comme elle a fleuri? Je dirais aucun argument humain. Comme disait Tertullien, je crois parce que c'est absurde.
Credo
quia ineptum est. Oui.
Moi, c'était absurde, mais bon, j'ai plus confiance dans votre culture que dans ma mémoire. Oui.
Non, c'est effectivement ce qu'on en retient. Credo quia absurdum. Et donc, si je crois parce que c'est absurde, c'est que je crois dans un autre esprit que le mien. Je crois dans une autre sagesse que la mienne. C'est la sagesse du Saint-Esprit.
Oui, là on revient à...
convainc nos réticences et qui nous attire dans l'Église, que nous le croyons ou pas, que nous le sachions ou pas. L'Église, c'est ecclésia ou kahal en hébreu, c'est la convocation. En fait, nous sommes tous convoqués dans l'Église. Et nous répondons oui ou non, mais...
Ou peut-être tardons à répondre.
Ou nous tardons à répondre, ou nous jouons la montre pour ne pas répondre trop vite.
On se sent pas digne. Je pense à cette formule « Domine non sum dignus ». Alors, je suis très embêté pour prononcer le latin, puisqu'il y a trois prononciations. Je vais essayer de revenir à la gallicane. « Domine non sum dignus ut un très subtectum meum ». Donc, d'une certaine façon, un peu aussi comme en matière amoureuse, il arrive qu'on ne se sent pas digne de la chance qui nous est offerte et qu'on recule à une grâce qui nous est faite parce qu'on ne s'en sent pas, on ne se sent pas la dignité, la puissance, le droit, la capacité.
Et c'est quand on ne s'en sent pas la dignité et la capacité que paradoxalement, on est prêt à s'ouvrir à un autre esprit que le sien, qui est l'Esprit Saint.
C'est le deuxième pas. C'est le franchissement de cette inhibition qui fait que moi plusieurs fois j'ai reculé devant des femmes magnifiques qui faisaient un pas vers moi et je me le reproche maintenant. Mais maintenant je comprends, c'est parce que je ne m'estimais pas à la mesure de ces filles formidables qui avaient la bonté de me faire des ouvertures. Et maintenant je m'en veux absolument parce qu'au fond. Au fond, à trop se s'accuser soi-même, en fait, on méprise la part négative qu'on a en soi et on idéalise l'autre. Et l'autre est aussi un pécheur avec ses faiblesses. Et chacun de nous joue un peu une comédie, si bien que on peut se laisser prendre au charme de la comédie que nous font les autres. Sans
Est-ce que vous décrivez là, c'est le jeu de l'amour qui n'est pas dans le champ de l'autre, comme dirait Lacan, qui n'est pas ouvert au grand souffle de l'Esprit Saint.
Oui, voilà. Donc, dans cet esprit, Monsieur Labbé, on s'apporte proche sans doute bientôt de la fin de l'émission. Nous avons fait un petit excursion sur Babel, et dans le cadre de cette série, dont aujourd'hui c'est le troisième épisode, la série catholique et français toujours, je vous proposerai peut-être de faire une émission sur Babel. Parce que c'est un mythe qui circule beaucoup et qui est objet beaucoup de contresens, d'un pluralisme d'interprétation. Et ce terme de Babel est dans le langage courant et vous avez contribué à le clarifier tout à l'heure. Mais en même temps, il y a des problèmes de traduction. Qu'est-ce que c'est que Babel? Comment traduire le terme? Comment traduire ce passage très court mais très dense? Moi, j'avoue que dans l'Ancien Testament, ce qui me fascine le plus, ce n'est pas le Cantique des Cantiques, c'est à la fois Babel et l'Ecclésiaste.
L'Ecclésiaste, c'est admirable, oui.
Mais Babel et l'Ecclésiaste sont pour moi les deux points qui me parlent le plus. Mais en même temps, ce sont des passages qu'on peut lire de façon pessimiste.
Mais le pessimisme de l'Ecclésiaste, c'est une introduction à la foi, justement.
Voilà, justement. Mais on peut, dans un premier temps, en rester au stade du pessimisme. Il reste à faire l'essentiel, le deuxième pas. Et, 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 Et c'est ça qu'on comprend peut-être, soit tout de suite pour certains qui ont la grâce, soit plus tard pour d'autres qui ont besoin de temps pour dépasser la première lecture. Voilà. Et alors, pour nous résumer, ce miracle, parfois appelé glossolalique du pluralisme des langues dépassées, ça n'est pas qu'une anthropologie de linguistique de la diversité humaine, c'est le fait que si c'est possible, c'est que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et sur la Vierge, et que on attend qu'il descende sur nous et il faut l'appeler à nous pour rejoindre l'Église. Est-ce que ce serait un résumé qui vous conviendrait, monsieur l'abbé?
Oui, oui, bien sûr, avec cette idée que la chrétienté est au fond une forme viable de Babel. Babel ne marche pas parce que l'homme se prend lui-même comme but, mais la chrétienté, en prenant non pas l'homme comme but, mais Dieu et l'amour de Dieu comme but, laisse entrevoir la possibilité d'une mondialisation heureuse.
Oui, oui, oui. Dieu vous entende, monsieur l'abbé. Ça pourrait être le mot de la fin de notre émission.
Ce sera mon dernier mot.
Et donc, alors, cette émission se termine. Je remercie monsieur l'abbé de Tannouarn d'avoir accepté mon invitation avec Nicole. Je remercie évidemment Nicole pour sa souriance et aimable assistance, et aussi Jean-Édouard qui assure la technique de notre affaire. Et donc cette émission enregistrée le 3 juin en fait passera le lundi de Pentecôte comme c'est bien naturel, en espérant que une telle émission contribuera à réactiver ce qui, chez certains de nous, n'est qu'un souvenir encore flou d'un catéchisme déjà lointain, puisque c'était le moment de la jeunesse. Voilà, merci à tous, et donc à une prochaine émission dans 4 semaines.
À très bientôt, Jean-René.
Vous venez d'entendre Paroles et pensées dirigées par Jean-René Ladmiral, assisté de Nicole, émission préenregistrée le 3 juin 2022, diffusée sur Radio Courtoisie lundi 13 juin de 10h30 à 11h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.